Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, 2 heures de découvertes rieuses vous attendent. Bienvenue dans l'équipée sauvage, l'émission qui, si elle était un film, serait le sens de la fête pour vous. Petit meurtre entre amis pour eux. En effet, chaque après-midi, les journalistes de la rédaction s'affrontent au service de votre culture G. Un seul héritera en fin d'émission de la scintillante couronne de chroniqueur du jour. Celle ou celui dont le sujet vous aura le plus captivé. À l'arbitrage, ma fidèle complice Eva Rock. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Une compétition qui chaque jour se déroule, qui plus est, sous l'œil d'un invité d'honneur dont la voix comptera triple en fin d'émission. Hier, on a passé un merveilleux moment avec le comédien Jonathan Lambert, formidable dans Fête des Gosses, la nouvelle série qui démarre ce soir sur France 2, et aussi dans ce biopic à venir sur Émile Louis.
Un bon goûter les enfants.
Il m'a dit, on est en phase du repérage. Pas très bien compris ce qu'il voulait dire. Quelle semaine Eva, puisqu'aujourd'hui c'est une comédie exceptionnelle qui nous rend visite. Actrice immense, elle a aussi formé toute une génération de comédiens et de comédiennes aujourd'hui en haut de l'affiche. Son nom, je vous le donne en mille, Eva.
Marvilla Longa.
Oh non, j'ai dû la boulette d'entrée. Pardonnez-la. Elle fait Dry January. Déjà qu'un jour sans alcool, c'est dur. Mais alors, un mois, imaginez. Bonjour Isabelle Nanty.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva.
Vous présentez-vous serait presque offensant, Isabelle. Les Tuches, Les Visiteurs, Amélie Poulain, Les Profs, Astérix, Mission Cléopâtre, les films dans lesquels vous avez joué ont fait plus de 65 millions d'entrées. Imaginez si vous aviez pris un pourcentage, ne serait-ce qu'un film.
Oh, ça aurait été bien.
Ça aurait été bien, vous négocierez mieux la prochaine fois. Et Isabelle Nanty à la télévision sur TF1, vous êtes également Maître Munchowski dans la série à succès Munch, qu'adore Eva.
Oui, c'est vrai, j'ai
une affection. Vous avez déjà tenu la jambe avant l'émission.
Oh, ça, vous n'êtes pas obligé de tout dire.
Gentiment.
Mais je le révèle quand même. Alors, vous êtes à l'aise dans tous les rôles, évidemment, mais celui-là, on dirait qu'il est vraiment taillé pour vous. Il est écrit pour vous, ce rôle.
Et en fait, oui, c'est vrai que j'ai été contactée au moment où les producteurs ont eu l'idée de ce personnage. Mais bon, c'était déjà quand même assez élaboré. Mais paraît-il, ils ont pensé à moi, ouais.
Mais le côté sûr d'elle, qui défonce les portes comme ça, c'est vous dans la vie ou pas du tout, ça?
Pas du tout.
Vous êtes plutôt réservée, en fait.
Moi, je suis très révérencieuse. J'ai jamais pris le métro sans ticket.
Oh.
Non, j'ai très peur de l'autorité. Je n'ai pas le courage, surtout, de Munch.
Donc,
j'adorerais avoir son courage.
C'est une forme d'exutoire pour vous, cette série.
Ça fait du bien. Hein. Peut-être ça m'en apporte un petit peu aussi dans la vie, du coup.
Allez, demain, on essaie de prendre le métro sans ticket. De toute façon, c'est la grève, donc personne ne vous en tiendra rigueur.
C'est ouvert.
Évidemment parler de cette troisième saison de Munch. Le temps de vous présenter nos deux premiers compétiteurs du jour. À ma gauche, spécialiste nouvelle technologie le soir, escort boy la nuit. Je vous présente Isabelle, celui qu'on place toujours en début d'émission, car comme dirait Eva...
Comme ça, ça détend l'invité.
Bonjour Alice Mbida.
Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Alors, pour sauver le monde, on le sait, il va falloir lever le pied sur la côte de bœuf. Vous connaissez déjà la viande végétale, eh bien on n'arrête pas le progrès puisqu'aujourd'hui les chercheurs font un pas de plus vers le paradoxe en nous proposant de la chair à saucisse vegan. Vous êtes sûr, Anissé ?
Oui. En plus, ça vient du CES de Las Vegas, hein, où il n'y a pas que des gadgets électroniques.
Le
y a
Consumer
aussi de la...
Electronic Show.
Le salon de l'innovation mondiale, il y a de la viande high-tech, de la chair à saucisse. Et ça tombe plutôt bien, vous allez voir, parce que c'est en ce moment on est en pleine pénurie de porc, parce qu'il y a de la fièvre porcine un peu partout dans le monde. Et vous allez voir, ces viandes végétales, on va se poser la question, est-ce qu'elles sont vraiment moins caloriques, est-ce qu'elles sont vraiment meilleures pour la santé?
Est-ce que vous avez goûté, pardon?
Oui, j'ai goûté.
Et alors, ça, à l'aveugle...
Alors, attendez, c'est le suspense.
Ah, d'accord.
Sinon, ça tue le suspense, Anissé. À ses côtés, Isabelle Nanty, ne vous laissez pas berner par ses sourires cajoleurs, c'est une des pires ordures du journalisme hexagonal. Judas, opportuniste, prêt à tout pour l'emporter, il a testé lundi une nouvelle stratégie particulièrement vicieuse pour s'attirer le vote de l'invité, flatter l'autre chroniqueur à l'issue de son papier pour se faire passer pour un chic type.
Moi, j'ai envie de dire merci. Merci pour cette belle chronique. Et puis, ça me permet de failloter un petit peu auprès de notre invitée Florence Avant-Schreiber. Et pourquoi pas de finalement finir par gagner cette compétition, ce qui est ma résolution 2020.
Oui, bonjour Axel de Tarlet.
Bonjour Mathieu.
Il avait perdu en plus. Ouais. Vous êtes l'expert économique d'Europe 1 et aujourd'hui vous nous parlez de Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, très concerné, on le sait, par la marche du monde. Bill Gates qui justement a la preuve de l'injustice du monde, sa fortune.
Eh ben oui, Bill Gates qui vire totalement à gauche et qui dans ses vœux tient des propos dignes de Thomas Piketty. En effet, il dit Mais les milliards que j'ai accumulés sont la preuve de l'injustice du monde dans lequel nous vivons.
On va rétablir ça très vite, vous allez voir. Ça va être très facile.
Qu'est-ce que vous allez faire?
L'injustice, on va l'éliminer, vous allez voir. Bon, on va prendre ces milliards et puis on va les donner aux gens.
Non, mais on recommande plus d'impôts.
Ah, ça va recommander plus d'impôts.
Je peux dérouler ma chronique maintenant. Quoique, c'est pas très surprenant comme proposition.
Vous êtes bien parti pour la victoire, une fois de plus. Voici pour le programme l'équipée sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipée sauvage.
Ça va pas mieux, Eva, hein?
Si, si, ça va beaucoup mieux.
Mais vous toussez toutes les deux secondes.
Ah bah moi aussi, si vous voulez.
Pas mal.
Eh ben, on est bien. C'est donc la comédienne Isabelle Nanty qui nous accompagne cet après-midi. Formidable dans Les Profs, épatante dans Les Tuches. Mais son plus grand rôle, c'est quand elle fait semblant de ne pas s'intéresser aux chiffres d'audience de sa série Moon sur TF1.
Moi, je connais rien aux chiffres. Donc, quand on m'a dit 6 millions et quel, j'ai dit, oui, c'est bien.
C'est pas un rôle, ça, une posture, Isabelle.
Non, non, mais je fais des efforts maintenant parce que j'ai pris conscience, effectivement, que d'être aussi pas au courant, c'était louche.
Ça se faisait pas. C'était louche, oui, ça, ouais, c'était presque louche, c'est ce que j'allais vous dire.
Ouais. Mais en fait, ça a été quand même une façon de me protéger pendant des années. Mm-hmm. D'abord, je suis dyscalculie. Les chiffres, c'est pas mon truc. Même si vous me donnez rendez-vous, je vais oublier l'heure parce qu'il y a des chiffres. Alors donc, il y a eu une époque où je donnais rendez-vous le 12 à 12h, le 13 à 13h, comme ça, j'étais sûre de ne pas me gourer. Bon, déjà, mais j'ai perdu mon fil.
Ça vous a protégé?
Oui, je me protégeais de... D'abord, je ne lisais pas les critiques, je ne les lis pas, depuis 1993, parce que je me suis rendu compte que j'étais extrêmement poreuse à l'opinion. Donc, je me suis protégée, je ne regarde pas... les critiques, je ne regarde pas les chiffres et je reste juste sur la personne qui est en face de moi, mon enthousiasme à moi, mon envie de continuer. Je pense que je ne serais plus dans ce métier si j'avais été attentive à tout ça. Donc c'était une façon un peu de me protéger, je crois.
Mais les critiques sur Internet, maintenant, elles vous tombent dessus. Alors vous n'allez pas sur le web, non?
Non, non. J'ai pas les réseaux sociaux et tout ça. En fait... il y a des faux comptes, il paraît. On a essayé de les supprimer, mais...
C'est des faux comptes. Si on voit Isabelle Nanty sur les réseaux sociaux, c'est pas vous.
Oui, je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Twitter, je n'ai pas Instagram.
Eh bien, je pense que vous avez la sage attitude.
La sage attitude. Ouais. Voilà une belle expression, Eva. Munch revient pour une troisième saison sur TF1. Isabelle Nanty passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, une sombre rumeur justement circule sur son compte. Rumeur qui veut que son véritable nom ne soit pas Mbida, mais Mbidé. Patronyme cocasse qu'il aurait eu à cœur de modifier en Mbida, plus conforme à son statut de sexe symbole.
Moi j'avais un vieux copain à l'ENA qui s'appelait François Lecu, il a transformé son nom en Lefu, ça a changé sa vie.
Mais peu importe son nom, vous avez raison Isabelle, c'est le thème de sa chronique qui nous importe. Et si demain, même la chair à saucisse devenait végane? Les fast-foods ont déjà passé commande, à tout de suite.
Europe 1, 16h-18h,
l'équipée sauvage. L'équipée sauvage sur Europe 1,
16h-18h,
Mathieu Noël.
Se cultiver sans aller jusqu'à se froisser un neurone, un mauvais mouvement est si vite arrivé. Bienvenue dans l'équipée sauvage. Deux heures d'une joyeuse compétition mettant aux prises les meilleurs journalistes d'Europe 1 sous le haut patronage d'un invité d'honneur. Aujourd'hui, Isabelle Nanty pour le retour prochain de Munch, la série à succès de TF1. Et Isabelle, si je vous dis que le sujet de notre premier concurrent va traiter d'une innovation dans le domaine de l'alimentation, vous me dites... Des saucisses. Anissé Mbida, monsieur Bidé, puisque les masques sont tombés, je vous laisse nous expliquer cette histoire de saucisses véganes.
Alors, pour venir un petit peu en arrière, ça se passe au CES de Las Vegas. CES de Las Vegas, c'est le grand salon de l'innovation qui a lieu tous les ans. Et l'année dernière, un des prix de meilleure innovation, c'était de la viande, du steak haché vegan, complètement végétal, mais qui imitait parfaitement, mais quand je dis parfaitement, la viande de bœuf. C'est-à-dire que ça saigne. Visuellement, on ne fait pas la différence entre un steak de plan et même gustativement,
Faites-moi le venir, même Olivier Pouls.
Non, mais c'est vrai, ça a été testé par plein de gens. Alors, il y a plein de types de viande, il y a plein de types de steak haché avec plus ou moins de gras, etc. Mais là, c'est une imitation parfaite et tout le monde reconnaît que c'est ce qu'il y a de plus parfait aujourd'hui. Et cette entreprise, il y en a plusieurs. Il y a la start-up Beyond Meat et la start-up Impossible Burger qui fabriquent ces steaks hachés de bœuf complètement vegan, eh bien, il récidive cette année avec une autre innovation qui est la chair à saucisse. La chair à saucisse, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des tomates farcies, des raviolis chinois. Et pourquoi ça intéresse beaucoup de monde en ce moment? C'est qu'il y a une pénurie mondiale de porc Il y a une fièvre porcine en Chine, il y a on appelle ça la peste porcine aussi en Afrique. Donc il y a les cours du porc sont en train de flamber. Et d'avoir un substitut de porc qui en plus est complètement végétal, non seulement c'est bon pour l'environnement, parce qu'on utilise moins, on ne tue pas d'animaux, on utilise beaucoup moins de ressources naturelles, mais en plus les prix seront bien inférieurs à ceux du cours du porc qui est en train de flamber actuellement.
C'est pas trop cher donc?
Non, le bœuf est à 1 ou 2 euros de plus que la viande de bœuf classique. Et le porc, on n'a pas encore les tarifs parce que ça va arriver, mais pareil, là, ça pourrait même être moins cher, vu que les prix ont été multipliés ces derniers mois.
Et la grande question, c'est est-ce que c'est moins calorique ?
Eh bien non, c'est ça la grande question. Alors je me tourne vers Isabelle Nanty qui disait qu'elle commençait un régime.
Surtout
pas.
Oui, vaut mieux rester
surtout
sur le
pas imaginer que ce genre de viande végétale, viande végane, est moins calorique. Je vais donner des chiffres. Le Impossible Burger, celui qu'on utilise à ce moment, on peut le trouver à Paris. Hein.
Peut déjà le trouver à Paris.
Oui. Il y a
c'est écrit dessus, il précise quand même.
Ah oui, bien sûr. Il y a pas mal de fast-food. Il y a la chaîne Burger King qui commence à le faire. Ouais. Il y a aussi la chaîne Paris New York qui fait des burgers, qui est très connue pour ses burgers. Elle a une option avec un burger complètement végétal. Et vous, franchement, essayez. Moi, j'ai essayé. Ça a vraiment le même goût que
du bœuf. Vous savez quoi ? Je vais essayer pas plus tard qu'aujourd'hui à Nice. Et si vous êtes foutu ma gueule, je le dirai demain à l'antenne.
Bah vous allez perdre 3 points.
Je serai pas le seul. Non mais vraiment c'est bluffant. Ce fameux burger, 240 calories.
Ouais. Et un burger normal, c'est quoi ?
280. Donc il y a très peu de différence entre les deux. Le gras saturé est quasiment exactement. Et c'est normal, pour arriver à faire quelque chose qui soit quasiment au même goût, on met même nombre de protéines, même nombre de gras.
Est-ce que c'est pas dangereux ? Est-ce que les matières chimiques qu'il y a dedans sont pas nocives ? Est-ce qu'on va pas se rendre compte dans quelques années que ces choses-là sont dangereuses
pour la
santé ?
Est-ce que c'est pas du tricatel, comme je l'ai lu une fois ? Vous savez, dans l'aile ou la cuisse, là, l'usine chimique.
Alors, il y a certains végans qui se posent des questions.
Tous les jours.
Mathieu Charrier.
Il y a certains végans, justement, qui se posent la question, parce que ces produits ne sont pas faits pour les végans. Les végans ont ce qu'il faut largement comme protéines animales, enfin végétales aujourd'hui, et ils n'ont pas besoin de substituts, de choses qui ressemblent à de la vraie viande. Et on parle d'allergie, peut-être, de certains produits. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune alerte. C'est des produits qui sont parfaitement
consommés. Je peux savoir avec quoi c'est fait.
Fait avec des protéines de pois ou des protéines de soja qui ont été génétiquement modifiées pour ressembler au maximum. Vous trouvez ça dégoûtant. Mais c'est pas plus dégoûtant de prendre un porc et de l'éventrer.
Je ne dis pas ça. Mais alors à ce moment-là, si on est vegan, on est vegan jusqu'au bout. On ne veut pas faire de mal au porc, mais on mange du tofu.
C'est pour ça que j'explique que ce n'est pas forcément pour les vegans. C'est aussi pour les gens qui veulent un peu moins de contribution sur la planète, avoir moins d'élevage de porc, moins d'élevage de viande, qui consomme énormément de ressources. Et donc, c'est plutôt bon pour la planète que de basculer sur de la viande faite à base de plantes que d'utiliser, que de sacrifier des animaux.
Question, est-ce qu'on va faire venir ce soja d'Amazonie ?
Non.
Ah bah non, vous n'avez pas l'air de
savoir. Il n'y a plus de forêt en Amazonie déjà.
Mais pour planter du soja.
C'est ça le problème. Non, c'est pour la plupart des... Il y a pas mal de soja qui est... La France, par exemple, est un grand producteur de soja. Donc la France pourrait faire... Il se trouve que ce sont des Américains. Ils se fournissent aujourd'hui aux États-Unis, qui est aussi un gros producteur de soja. Ils n'ont pas trop de problèmes de ce côté-là. Mais en tout cas, ces viandes, ne les utilisez pas pour faire un régime.
Ça ne sert à rien.
C'est aussi calorique que la viande traditionnelle. En revanche, c'est plutôt bon pour la planète, et on n'a pas trouvé d'allergie ou de problème tricatel.
Oui,
comme
j'ai envie de vous dire, pas encore. Mais quand il y aura des études,
mais la viande aussi, on a trouvé des trucs, vous savez.
Oui, mais ça, je ne veux pas le savoir, ça me fait mal au cœur. On remercie Anis et Mbida. Axel, si je vous demande ce que vous avez pensé de la chronique de votre rival, parviendrez-vous à rester beau joueur ?
J'ai rien compris.
Et non.
Europe 1.
À suivre, dans un monde où la défiance envers le journalisme atteint des sommets, il est important de restaurer la confiance en vous proposant l'éclairage de professionnels irréprochables. Dans quelques instants, c'est un des journalistes les plus rigoureux de notre rédaction qui va vous parler de Bill Gates. Axel de Tarlé, voilà bien quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance.
En 2030, donc c'est demain, les voitures électriques seront majoritaires, oui.
C'est pas vous qui me disiez l'autre jour que ça marchait pas l'électrique ?
Oui, exactement.
Le spleen de Bill Gates qui culpabilise d'être si riche, c'est juste après Alain Souchon, les amis, presque, sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
4 journalistes, une seule couronne, vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission où l'humour et l'info se tripotent en cachette de leurs parents. 2 heures d'une compétition ébouriffante entre les journalistes d'Europe 1 sous l'œil aujourd'hui d'Isabelle Nanty qui, avouons-le, n'avait pas vibré comme ça depuis sa participation à Fort Boyard en 2001.
J'ai des asticots, c'est horrible ! J'ai des asticots dans le soutif !
Vous aviez des asticots dans le soutif, bon ou mauvais souvenir, Fort Boyard, Isabelle Nanty ?
Horrible.
Ah, moi aussi, c'était affreux.
Ah ouais, moi je trouve que c'est une entreprise d'humiliation organisée au nom... De la bien-pensance, c'est-à-dire d'association. Mais au fond, Léa Drucker, elle arrive. toute pomponnée, enfin, nickel, belle, comme Léa Drucker. Une minute après, elle est dans la boue. Et moi, j'avais des soutifs dans les asticots.
Dans les asticots.
Ça s'en était. Dans la série « Bon ou mauvais souvenir », Isabelle, j'aimerais éclaircir un point avec vous concernant un de mes films cultes, « Les Visiteurs ».
Ouais. Alors, très bon souvenir.
« Visiteurs 1 », je précise. Ouais. Très bon souvenir pour vous.
Très bon.
Sur le tournage.
Oh, génial.
Alors, expliquez-moi, comment se fait-il que Valérie Lemercier ait raconté, plusieurs années après, qu'elle avait vécu un tournage difficile où elle se sentait mise à l'écart de la bande? Est-ce que vous avez souvenir de ça? De Valérie Lemercier dînant seule le soir et pas avec le reste de l'équipe.
Alors bon, moi, je rentrais à Paris le soir, donc je ne sais
vous
pas
n'avez
si
pas
elle
vu ça.
Je n'ai pas vu ça, mais je la crois si elle le dit. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas vrai. Sur le plateau, je n'ai pas senti d'animosité ou de choses comme ça. En même temps, vous savez, j'ai tourné que 10 jours. Hein. Eux, ils ont tourné 8 semaines ou 9 semaines. Mais
donc, vous êtes en mesure de réhabiliter mon rêve, quelque part. Les Visiteurs, c'était aussi un tournage aussi rigolo que le film. Quoi.
Bah moi, je me suis beaucoup
vous
marrée.
Êtes marrée. Hein.
Ah ouais. C'est 10 jours en plein été, il faisait très très chaud et des rigolades, des fous rires à n'en plus finir. Et puis, la découverte d'un metteur en scène qui est Jean-Marie Poiret, qui est un grand metteur en scène. Quoi. Il vous met dans l'état de jouer... Toute l'énergie qui passe dans le film, c'est lui. Hein. C'est un...
Alors justement, c'est une question qu'on se pose quand, en tant que néophyte. Quand on est une grande comédienne, est-ce qu'on se rend compte quand on participe à un film qui va devenir culte? On peut jamais savoir que ça va être culte, mais que ça va être quelque chose de spécial quand même. Est-ce que sur le tournage des Visiteurs, déjà, on imaginait le phénomène que ça deviendrait?
Non, on ne peut pas imaginer, mais je dois dire qu'à chaque fois... Le tournage d'Astérix, c'était dingue.
Ouais,
j'ai tourné que 5 jours, hein, mais c'était dingue ce qui se ressentait. Le tournage d'Amélie Poulain, c'était dingue.
Ah, ça, c'est vachement intéressant parce que je crois qu'Amélie Poulain avait du mal à se monter avant que.
Oui, mais une atmosphère sur le tournage, on avait tous conscience de faire quand même, d'être au service d'un metteur en scène et d'un scénario qui était à part. Et un grand plaisir à le faire. Je crois quand même que le plaisir à faire les choses passe. C'est une énergie qui passe dans la pellicule, à mon avis. Enfin, la pellicule.
Mais alors justement, on peut dire la pellicule.
On en parle hors studio, donc c'est aussi ce qu'on ressent quand on regarde Munch sur TF1. On a l'impression qu'il y a une connivence entre vous et tous les autres comédiens qui fait quand même le sel de cette fiction.
Notre motivation en fait, première à être à la 3e saison de Munch, c'est de se retrouver tous et quand même de défendre un principe quand même qui est fondamental qui est dans les démocraties, qui est la défense de tout individu, quel qu'il soit. Et donc, des avocats. C'est un beau métier.
Notamment, on peut citer Tom Villa, on peut citer Lucien Jean-Baptiste,
Aurélien Vic, Paloma Coquin.
Et une petite nouvelle cette année, qui rejoint le casting. Marie-Lou Berry.
Ah ouais, elle est extra.
Elle est vraiment géniale.
Avec un nom, rien que son nom est génial. Hein. Blanche Braque.
Oui.
Alors, ça, je sais pas qui l'a trouvé, Blanche Braque, mais...
Bébé.
Initial bébé. Munch revient à la fin du mois. Isabelle Nanty plaide sa cause jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, ma chère Isabelle, c'est un journaliste encore traumatisé qui va se présenter devant vous pour sa chronique sur Bill Gates. Un journaliste dans la tête duquel résonnent encore les vannes de votre ami Pef, venu nous présenter il y a quelques mois son dernier film dans lequel vous jouiez. On avait parlé alors de Festival Pef.
Au départ, je voulais tout de suite les donner à Emmanuel Duteil parce que bon, j'aime beaucoup son papa, chanteur. Quand on s'appelle Axel de Tarlé, à la base, on n'a pas de chance, quoi.
Hors antenne, Axelou avait explosé.
J'ai trouvé ça incroyable d'être attaqué sur mon nom, surtout de la part d'un mec qui s'appelle Pef.
Oui, bon, du passé, faisons table rase, Axel. Voyez les choses du bon côté, vous auriez pu vous appeler Bidet.
L'équipée sauvage, 16h-18h. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Parfois, quand je constate ce qu'est devenu l'ambiance dans la rédaction depuis que j'ai créé cette émission, je comprends le docteur Frankenstein. Ma créature m'a échappé. Je me souviens avec un pincement au cœur du temps où les journalistes de la rédaction se retrouvaient avec plaisir à la machine à café pour deviser gaiement. C'était avant que les invités puissent les noter.
Pas de soupape, hein.
Depuis, fini la pause café, c'est... Mais la compétition a aussi du bon. Vous, par exemple, Isabelle Nanty, vous êtes un exemple d'abnégation et de persévérance. Alors, quand on voit votre carrière aujourd'hui, on a du mal à imaginer que vous avez raté plusieurs fois le concours de l'entrée à la Rue Blanche.
Ouais. J'ai raté tous les concours.
Mais vous vous êtes améliorée ou juste vous avez été mal jugée par des gens incompétents au moment où vous êtes présentée? Un peu des deux.
Je pense que j'ai... Je sais pas. je me suis améliorée, je ne sais même pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même bizarre, les concours pour un métier qui se fait sur la personne, en fait, sur la sensibilité. Moi, je suis contre les examens, par exemple. J'ai été prof dans une école et je refusais qu'il y ait des échéances où on les juge. Parce que vous travaillez avec des gens que vous aidez à se construire, en fait. C'est eux qui travaillent, c'est eux qui se cherchent. Donc, on n'a pas à juger là où il en est de la recherche. Ça peut mettre 15 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe.
Alors aujourd'hui, vous avez basculé côté prof. On vous présente d'ailleurs souvent comme ça, comme une prof de théâtre émérite qui a formé les plus grands comédiens actuels. Mais vous-même, vous avez souffert longtemps d'un complexe d'illégitimité.
À cause de justement tous ces concours que je ratais.
À cause de vos débuts.
Ouais.
Et enfin, après, vous êtes devenue une comédienne émérite. Vous ne devriez plus du tout ressentir ça.
C'est très gentil de le dire, mais... De l'intérieur, on ne se vit pas forcément comme ça. Ça ne repose pas sur des choses, ce n'est pas une science exacte de savoir jouer. Moi, je ne sais toujours pas comment on fait, très sincèrement, je ne sais toujours pas comment on fait pour jouer. Je ne sais toujours pas comment font mes collègues, je les vois arriver, comment ils ont appris leur texte, là comment ils vont faire pour être dans telle émotion et tout ça. Je ne sais pas, c'est un mystère. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas ça qui m'intéresse en fait, de ne pas savoir.
C'est ce qui fait avancer.
J'ai peut-être peur du jour où je saurai.
Alors Isabelle, moi aussi, si je dois être totalement honnête, j'ai propulsé pas mal de talents, mais où ? J'aurais peut-être dû réfléchir avant. Pour Axel de Tarlet, par exemple, j'ai toujours hésité entre le journalisme économique et l'humour. Son intervention de lundi face à la psychologue Florence Servan-Schreiber me confirme que j'ai bien fait de lui conseiller le journalisme économique.
On a besoin de se toucher, d'être touché.
Tout à l'heure, c'est vrai que j'étais un peu déçu quand vous parliez de « pour se sentir bien et s'épanouir ». Dans les moments intimes de gestes qu'on pouvait... C'était l'écriture, mais je ne m'attendais pas à ça.
Je comprends rien de ce que je dis.
On le surnomme Jean-Michel Malaise. Isabelle, le moment est venu d'écouter la chronique d'Axel de Tarlet, qui s'est intéressé aujourd'hui à Bill Gates. Là, vous êtes en confiance pour votre chronique, Axel.
C'est bien, alors, oui, après ce petit passage. Alors oui, je me suis penché sur les vœux des plus puissants de ce monde, donc Bill Gates. Si vous allez sur son blog, il vous présente ses vœux et il parle de fiscalité. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même. C'est pas terrible dans les vœux de parler de fiscalité.
Oui, c'est pas très funky, mais bon.
Mais ce qui est incroyable, c'est quand vous lisez donc son post, comme on dit, il tient des propos dignes de Thomas Piketty. Alors, je cite donc Bill Gates. « J'ai été rémunéré de manière disproportionnée, écrit-il, alors que d'autres travaillent dur et ne s'en sortent pas. Ce système est la preuve que nous vivons dans un monde injuste. » Il dit en fait que tous ces milliards qu'il a accumulés sont illégitimes. Et alors, il explique, il dit « Le système fiscal est totalement injuste. » Il dit, par exemple, celui qui travaille et qui se lève tôt, il va être taxé sur son travail. Alors, aux États-Unis, il donne le chiffre, c'est 37%. En France, c'est 57%. Alors que moi, qui ne vis que de ma fortune, je suis beaucoup moins taxé à 20%. Donc, il dit, « I don't see any reason to favor wealth over work. » Je ne vois aucune raison pour laquelle on favorise le travail plutôt que la fortune. Et donc, il dit, « Melinda et moi... » nous devrions payer beaucoup plus d'impôts.
Melinda qui est sa femme.
Et ensuite, alors, il y a un autre chapitre sur « On devrait beaucoup plus taxer aussi l'immobilier », dit-il. Il dit « On est dans un système dynastique où la fortune se transmet aux enfants. Ce n'est bon pour personne, etc. » Donc, il reprend tous les arguments de Piketty et il dit « Il faudrait payer
beaucoup
plus. »
Vous pensez qu'il a lu Piketty ? Parce que vous savez que Bill Gates lit tout le temps. C'est un lecteur, il peut lire un livre par heure. Je ne sais plus, j'avais vu un reportage sur lui.
Ah ouais.
Oui, alors, en même temps, ce qui est incroyable, c'est que ça, il l'écrit. Mais il a été interrogé sur le bouquin de Piketty et quand il a appris que Piketty, alors je crois que dans son dernier livre, il propose de taxer la fortune au lieu de 2 milliards jusqu'à 90%. Alors il a dit « Ah non, je veux bien partager, mais quand même pas. » Voilà. Oui, mais ce à quoi Piketty fait remarquer, quand vous avez 100 milliards, si on vous en prend 90%, il vous reste 10 milliards. Bon bah 10 milliards, vous avez
ça
quoi ?
Ça peut permettre de s'en sortir.
Oui,
ça peut permettre d'envisager la fin du mois sereinement.
Voilà, exactement. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ces idées infusent quand même. Alors, vous savez qu'aux États-Unis, vous avez Elizabeth Warren, l'une des candidates démocrates, qui propose de créer un ISF sur le modèle français. Aux États-Unis, d'ailleurs, petite info au passage, ses conseillers économiques sont français, de l'école Piketty. Ouais. Et même si vous regardez en Grande-Bretagne, pour regarder Boris Johnson, qui est quand même du parti de Margaret Thatcher, eh bien, c'est ce qu'il a fait le 1er janvier. Il a augmenté le SMIC de 6%, ce qui fait que le SMIC anglais est passé au-dessus du SMIC français. Je cite Boris Johnson, « Le dur labeur doit être rémunérateur pendant trop longtemps. La population n'a pas eu l'augmentation salariale qu'elle mérite. » Donc vous voyez que ces idées, ces inégalités qui, comme le dit Bill Gates, se sont creusées depuis 50 ans, elles sont en train de on sent le balancier aller dans l'autre sens aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et attention, parce que ce sont deux pays qui sont leaders dans les logiciels du monde. Reagan et Thatcher avaient initié la vague libérale
dans les années 80. Je me demande si là, on n'a pas une vague un peu plus sociale. Et regardez, c'est à la une d'Aujourd'hui en France ce matin, comment les Républicains veulent s'inspirer de cette fibre sociale avec Guillaume Pelletier, qui est le numéro 2 du Parti Les Républicains, qui dit « Inspirons-nous de Boris Johnson, celui qui a fait passer le SMIC anglais au-dessus du SMIC français. »
Isabelle Nanty.
Si c'est une compétition entre les deux SMIC, il faudrait juste dire quand même quelle somme minimum les gens, parce que faire mieux que les Français, c'est pas difficile. Donc, quelle somme minimum quand même décente, et puis ensuite, quel espoir de vie meilleure on peut avoir et avec quel salaire. Je trouve ça dingue.
Oui, mais c'est exactement moins, le propos que tient de Bill Gates à Boris Johnson. Il dit le travail, le labeur n'est pas assez rémunéré, le dur labeur. Et on a trop favorisé la richesse et pas assez le travail. Ça va exactement dans le sens de ce que
mais
vous dites.
Mais là où je trouve que... Enfin, si je peux me permettre...
Mais permettez-vous, Isabelle.
Il veut donner des milliards, qu'il y aille. Hein, enfin, on peut aussi faire des caisses de solidarité indépendantes quand il y a urgence. Si les gouvernements ne font rien, si le mec a tant de milliards... C'est possible aussi de le faire comme ça.
Mais justement, Isabelle, Bill Gates nous écoute, car il écoute Europe 1 tous les jours, et il va certainement prendre des mesures après votre chronique. Oui. Merci beaucoup, Axel de Tarlé. Pour le moment, Axel, comment trouvez-vous Isabelle Nanty ?
Beaucoup plus sympa que PEF. Hein.
Qu'on salue quand même.
Non,
bisous, bisous.
Europe 1.
À suivre, après 84 défaites d'affilée sur seulement 88 quiz, Eva Rock a statistiquement plus de chances de gagner à l'euro million ou bien d'être demandée en mariage par un milliardaire philanthrope ex-mannequin Dolce Gabbana que de l'emporter contre Isabelle Nanty cet après-midi. Comment vous analysez ce cycle de la loose, Eva ?
J'ai compris une chose, je réfléchis trop.
Ça doit
voilà,
être ça.
C'est ça.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures au carrefour hautement accidentogène de l'info et du rire. Une course-poursuite pimentée entre les meilleurs journalistes de la rédaction qui, certainement parce qu'ils ignorent que je l'ai acheté 9,90€ à la foire fouille, se battent pour cette couronne en plastique qui récompensera en fin d'émission le meilleur chroniqueur du jour. Sous le contrôle de notre invité d'honneur, c'est Isabelle Nanty qui nous accompagne aujourd'hui pour fêter le retour à la fin du mois de Munch, la série de TF1. On parlait, Isabelle, d'un film, on parlait de PEF, qui a réalisé Faïm, il y a quelques mois. Très beau film, dans lequel vous donnez les répliques à Gérard Depardieu. On parlait, tout à l'heure, vous nous disiez, même après toutes ces années, j'ai l'impression de ne pas connaître la recette de la comédie, comment jouer. Face à Gérard Depardieu, on se sent comment, quand on donne la réplique à Gérard ?
On n'emmène pas large.
Vous dites qu'il est bon dès la première prise, lui.
Oui, de toute façon, entre le moment où il rentre dans sa loge et le moment où il en ressort dans le costume,
ouais,
la personne qu'il va jouer est là. Avec beaucoup d'humanité, un regard... c'est très, très, très intimidant d'être dans le regard de Gérard Depardieu parce qu'il y a, beaucoup d'enfance, il y a beaucoup de souffrance. On n'a pas envie de le brusquer. Et moi, je me sens assez petite fille devant lui.
Et vous dites un truc étonnant, mais c'est lié à votre incroyable modestie. Vous dites que vous avez l'impression, comme vous, c'est pas à la première prise que vous arrivez à tout donner, vous avez l'impression de lui faire perdre son temps.
Ouais.
Mais j'imagine que c'est toujours comme ça entre acteurs, non ? Enfin, quand on fait une.
Bon, des fois, c'est des conflits d'ailleurs.
Ah ouais ?
Mais pas là, parce que lui, il est élégant, mais.
Ah, ça doit être horrible. Il y a des acteurs qui, parfois, s'arrêtent et disent bon, quand est-ce que tu vas être au niveau ? Parce que moi, je suis déjà.
Parce qu'en fait, moi, je suis dyslexique. Donc, mon petit cerveau met, une ou deux prises à aligner toutes les données.
C'était pratique dans Astérix pour jouer Itinéris, du coup.
Ouais.
Oh bravo, belle intervention, Anissé. Quelle présence d'esprit. Eva avait bien aimé...
Quoi ? Oui, bah non, allez-y.
Non,
allez-y.
Je voulais juste dire que vous aviez, comme moi, aimé le film Faïm, un beau film engagé. Invite à découvrir quand il sortira en VOD.
Et qui va faire le tour du monde.
Et qui fait le tour du monde, vous nous le disiez en antenne. Elle aussi est une femme engagée, elle a un avis sur tout. Le problème, c'est que souvent, elle le donne. Comme on a encore pu le constater hier, quand elle est intervenue, alors que personne ne lui demandait rien, sur le papier d'Isabelle Horry, qui nous parlait de la Hollande et des Hollandais.
Toujours quelque chose à dire.
C'est le gouvernement à La Haye, hein, qui a très officiellement orchestré cette disparition. On ne pourra plus dire Hollande pour le pays des tulipes.
Je suis rassurée.
Eva Rock a
toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire.
Je suis rassurée, ça n'a rien à voir avec François Hollande.
Toujours quelque chose à dire.
Ces interventions sont toujours pertinentes.
Voilà.
Ces réponses durant le quiz, un peu moins. Isabelle
c'était
Nancy.
Une petite vanne.
Non, mais n'essayez pas de voilà. vous justifier rien.
Quand une situation
est injustifiable, il ne sert à rien d'essayer de la justifier. D'accord. Isabelle Nanty, pour le quiz du jour, j'ai choisi un thème faisant directement référence à la série Munch, car nous allons jouer sur l'univers des procès. Certaines affaires sont déroutantes, à vous de me dire si les verdicts que je vais vous donner sont authentiques ou totalement inventés. C'est un vrai faux. Vous jouez chacune votre tour. Eva, commence avec
oui.
Dans le Texas, Madame Robertson s'est foulée la cheville dans un magasin en trébuchant sur un enfant en bas âge. Elle a attaqué les gérants du magasin et a empoché 780 000 dollars de dommages et intérêts. Somme d'autant plus incroyable que l'enfant en bas âge était son fils. Vrai ou faux ?
Ah mince, ça, c'est le dernier détail qui me gêne un peu.
J'aime introduire de la complexité
mais
dans mes
je
quiz.
Crains que ça soit vrai, cette histoire.
Vous
je vais dire vrai, ouais.
C'est vrai, ça s'est passé en janvier 2000 dans un magasin de meubles. Isabelle Nanty. Dans un restaurant de Philadelphie en mars 2019, Amber Carson a bu un coca normal alors qu'elle avait demandé un coca zéro. Résultat, après un procès de 8 mois, 64 000 euros de dommages et intérêts. Vrai ou faux verdict ?
Vrai.
64 000 euros pour un...
ça fait cher le coca, hein ?
Faux.
Mais
ça s'est passé en mai 2000, Amber Carson a obtenu 113 000 euros, mais parce qu'elle s'était cassé le coccyx après avoir glissé sur du coca qui était sur le sol, accrochez-vous, un coca qu'elle avait elle-même envoyé à la figure de son petit ami avec qui elle venait de se disputer. Voilà, mesdames et messieurs, la justice américaine.
Oh là là, mais ça fout la trouille quand même.
Isabelle Nanty et Varrock, vous jouez ensemble. Terence Dixon est cambrioleur. Il entre par effraction dans une maison, ce qui ne va pas l'empêcher ensuite de faire un procès au propriétaire. Procès qu'il va gagner. Que lui est-il arrivé ? Trois propositions. 1. En portant une télé 16/9, il va se faire un lumbago. 2. Il va rester coincé dans le garage et va devoir manger la nourriture pour chien. Ou 3. Il se prend une haie de jardin au mauvais endroit, ce qui le privera de descendance. D'après vous ?
Alors peut-être que c'est l'histoire de la pâtée. Moi, j'irais l'histoire de la pâtée. Enfin, enfermé dans le garage.
Il s'est enfermé dans le garage.
Il est obligé de manger la pâtée.
Moi, je dirais la dernière.
Les coucougnettes.
Ouais, bah, je pense que pour arriver à un tel degré d'aberration, il faut vraiment qu'il ait été blessé, le gars.
Ouais. Effectivement, quand vous allez découvrir la somme, pourtant vous avez tort, Isabelle. Il voulait sortir par le garage. Une fois la porte claquée, il ne pouvait plus retourner dans la maison. La porte automatique étant défectueuse, il est resté coincé 8 jours, ne se nourrissant que de croquettes pour chien.
Berk.
Le traumatisme a été avéré. 500 000 dollars.
500
000 dollars de dommagement. Oh le salaud.
C'est de la jurisprudence.
Ah, imagine. Alors moi, pour 500 000 dollars, je vous dis, je mange même la chair à saucisse d'Anissa Mbida.
Ah oui.
Enfin, je veux dire, celle qu'il a présentée tout à l'heure. Bref, monsieur Evarock.
Pareil tenu.
Monsieur Grazinski était très fier de son camping-car long de 10 mètres. Il a fait un procès au constructeur car cela n'était marqué nulle part que quand on s'endort dans les montagnes du Montana, il faut mettre le frein à main. Résultat, 1 750 000 dollars de dommages et intérêts.
Non.
Vrai ou faux verdict ?
Non, c'est faux.
C'est faux ?
Ah oui.
Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui, Eva. C'est faux, mais c'est pire. Mais c'est pire.
C'est pas possible.
Ah, c'est pire que ça. Il conduisait à 110 km/h, puis il a quitté le siège pour se faire un café à l'arrière, pensant qu'on pouvait le faire. Monsieur Grazinski a fait plusieurs tonneaux. Au procès, il a bien gagné 1 750 000 euros et un nouveau camping-car de la marque Winnebago. Depuis, dans le guide d'utilisation de la marque, c'est marqué noir sur blanc qu'il n'y a pas de pilotage automatique.
C'est pas possible.
Voilà où nous en sommes. Isabelle Nanty, attention, c'est la question qui va vous départager. Arturo Carvajal est d'origine cubaine. Dans un restaurant de Miami, il commande un plat dont il n'avait jamais entendu parler. L'artichaut. Problème, comme il n'en a jamais entendu parler, il n'en a jamais vu, il va tout manger. Ensuite, il va attaquer l'établissement. Vrai ou faux procès ?
C'est dans Munch.
C'est dans Munch !
Ah ouais !
Incroyable !
C'est dans Munch.
Eh bien oui, vrai procès. Un accord secret a été trouvé. Son avocat a expliqué qu'il fallait vraiment être un connaisseur pour savoir manger l'artichaut. Ouais. Arturo a tout mangé. Pendant le procès, il avait encore des feuilles dans son intestin qu'il tentait de digérer.
Voilà.
Eh oui, Munch revient sur TF1 à la fin du mois pour une troisième saison. Isabelle Nanty qui ne remporte pas le quiz parce qu'elle est tellement polie qu'elle a laissé Eva gagner.
Solidarité féminine. Solidarité. Vous avez vu comme ça marche
peut-être.
Parfois.
Isabelle Nanty, notre invitée cet après-midi.
Europe 1.
À suivre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les petites ne sont pas forcément les moins intéressantes.
Marvilla Longa.
Non mais je parle des stations de ski, Eva. Évitez les queues interminables aux tire-fesses. Pour vos prochaines vacances à la neige, optez pour les micro-stations de ski. Elles se développent et ne manquent pas de charme. Notre correspondant dans le sud a testé pour vous et il est formel. On peut être petit et attractif.
Goebbels.
Bien, on en parle juste après Pink, Walk Me Home sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipée sauvage continue avec notre invitée d'honneur, Isabelle Nanty, bientôt de retour sur TF1 pour une nouvelle saison de Munch. Est-ce que vous aimez le ski, Isabelle ?
J'ai aimé le ski.
Vous avez aimé le ski. C'est fini.
Depuis très longtemps. Je crois que j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire et j'ai arrêté de conduire une voiture en même temps que j'ai arrêté le ski.
Ah oui, beaucoup de choses, beaucoup de résolutions simultanées.
Non, c'était pas des résolutions.
C'était pas des résolutions.
C'était des phobies. Malheureusement.
Alors le problème du ski, Isabelle, c'est le monde.
Lâchez la paire maintenant. Lâchez la paire. Faites attention, vous allez faire tomber tout le monde.
Et si la solution, c'était les petites stations ? Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors vous êtes un correspondant en anorak aujourd'hui. Cet après-midi, vous êtes à Gréolières-les-Neiges, dans l'arrière-pays grassois, au pied des pistes.
Oh, j'adore.
Alors d'abord, est-ce qu'il y a de la neige ?
Il y a de la neige partout, hein, partout en bas des pistes. Hein. Je suis au pied des remontées mécaniques et grâce au canon à neige, car ici, il n'a plus neigé depuis la mi-novembre. Grâce au canon, 4 pistes sur 10 sont ouvertes aujourd'hui. Un peu plus haut, il fait plus chaud, hein, 10 degrés environ. Ce n'est pas étonnant, on est plus proche du soleil là sur les sommets, la montagne a perdu son montant blanc, mais je vous rassure, des journées plus froides sont annoncées. Jean-Paul Rouquier, le directeur technique de la station de Gréolières-les-Neiges, s'en frotte les mains. Avec la baisse des températures, il va pouvoir utiliser son atout majeur, ses 80 canons à neige qui lui permettront d'ouvrir les 30 km du domaine skiable.
Là, on produit la neige la nuit, la neige de culture, dès qu'il fait froid.
Le froid, c'est votre allié?
Ah oui, le froid et la neige naturelle bien sûr, mais là en l'attendant, parce qu'on espère bien qu'elle arrive, on a la neige de culture. Et on part le matin avec les dameuses pour étaler la neige qui a été produite dans la nuit.
C'est-à-dire que vous n'avez pas installé que des canons à neige, vous avez fait des réserves d'eau ?
L'hiver, les ruisseaux sont gelés, ils ne donnent pas. Donc il faut stocker de l'eau pour l'hiver pour pouvoir produire. La neige, c'est le moteur. L'hiver, on a d'autres activités à côté, mais ça reste des à côté. Ce qui est demandé l'hiver, c'est de glisser sur la neige.
Frédéric, selon une enquête du Journal du Dimanche, 168 stations auraient fermé depuis 1951 et pas forcément à cause du manque de neige naturelle.
Effectivement, pour survivre, ces stations se sont adaptées au changement climatique et donc au manque de neige en investissant, vous l'avez entendu, dans des outils et des infrastructures pour produire de la neige artificielle, là où d'autres stations n'ont pas réalisé ces investissements. Ils ont également ciblé leur clientèle à Gréolières comme dans d'autres petites stations des Alpes-Maritimes, le Diberg, Roublon, Turigny, Camp d'Argent. On a su tirer parti de ce qui, sur le papier, pourrait être qualifié de faiblesse. En fait, sans complexe, ces stations se présentent comme des domaines skiables pour débutants. Oui. Mais pour les skieurs chevronnés, il y a aussi une piste noire, ça, il faut le préciser. Donc il y en a pour tous les goûts. L'école de ski ne désemplit pas. 80% des clients sont des enfants. Il y a beaucoup de scolaires et des débutants de tous les âges. On manque d'ailleurs de moniteurs diplômés. Avis aux amateurs, si ça vous intéresse, Mathieu, si vous voulez changer de métier.
C'est vrai, reconversion.
Autre argument, c'est pas cher. Hein. 24 euros le forfait journalier pour les adultes quand l'ensemble du domaine est ouvert. Vous voyez, ce sont autant d'atouts qui ont permis à ces petites stations de remonter la pente.
Et depuis le temps que j'aurais rêvé de faire de la luge, en tandem avec Eva Rock. Merci Frédéric Michel. Et on signale que Gréolières-les-Neiges est même classé dans le top 100 des stations de ski les plus rentables.
Europe 1.
Après ce round d'observation, l'équipée sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1, s'apprête à entrer dans une deuxième phase. C'est un affrontement plus violent, plus frontal qui nous attend. Car oui, même si on déconne, le fil rouge de notre émission reste la compétition, avec en ligne de mire le titre de chroniqueur du jour. Compétition qui stresse tout le monde, y compris notre réalisateur, Philippe Amardey, qui, au mépris des règles de politesse les plus élémentaires, n'hésite plus à couper l'invité lorsqu'il estime que durant une coupure pub, ce dernier s'épanche un peu trop. C'est ce pauvre Jonathan Lambert qui en a fait les frayères alors qu'on parlait langoustine.
Des langoustines vivantes.
Des langoustines, c'est pour des pâtes aux langoustines.
Une des meilleurs plats au monde.
Oui, mais c'est très bon. Mais
c'est le truc le plus cher.
Mais la cuisson, tu les manges direct.
Ouais, c'est... Mais la langoustine, c'est... Pardon, mais...
Attention.
Quelle élégance, quelle élégance, Philippe. Bravo.
Mais sur Radio Courtoisie, ils sont beaucoup plus courtois.
J'annonce, si tu te permets de couper la chic comme ça, Isabelle Nanty, c'est Pôle emploi spectacle direct, Coco.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
C'est la mi-temps pour nos champions. Chaque après-midi, vous le savez, l'équipée sauvage réunit les meilleurs journalistes d'Europe 1. Plus précisément aujourd'hui, ceux qui habitent sur la ligne 1 et la ligne 14 du métro parisien, les seuls qui marchent. Deux nouveaux prétendants au titre de chroniqueur du jour vont nous rejoindre. Avec eux, on parlera d'une découverte littéraire et d'une découverte scientifique, puisqu'une nouvelle planète habitable a été détectée par la NASA. Le tout en compagnie d'une invitée de marque, illustre comédienne, qui est en plus ce qu'on appelle une bonne cliente pour les émissions de divertissement, où elle apporte son sourire et sa classe, surtout quand elle est avec son complice Jean-Paul Rouve.
Pouvez-vous nous danser du coupé-décalé ?
C'est un peu s'enculer, mais en dansant, non ?
Isabelle Nanty passe l'après-midi sur Europe 1, mais c'est très juste, Isabelle. J'ai hâte que la deuxième heure commence. Oh, mais tiens donc ! C'est qu'il est déjà 17h sur Europe 1. L'heure du flash, avec vous Marguerite Lefebvre.
Il a pris la parole pendant près de 2h30, debout derrière un pupitre dans une salle du syndicat de la presse à Beyrouth. Une salle bondée de journalistes. Devant eux, Carlos Ghosn a dénoncé les accusations sans fondement. Un coup monté par Nissan et la justice japonaise pour le faire tomber. Peu de détails sur les conditions de sa fuite, si ce n'est ce sentiment de nervosité d'abord, puis de libération. L'impression de sortir d'un cauchemar, selon les termes de l'ancien patron de Renault, qui explique avoir fui, je cite, l'injustice et la persécution politique. Ces critiques unilatérales contre la justice japonaise sont inacceptables. Voilà ce que fait savoir à l'instant le parquet de Tokyo. La ministre de la justice japonaise annonce qu'elle donnera sa version des faits lors d'une conférence de presse vers 1h du matin, heure française. Donald Trump doit s'exprimer d'une minute à l'autre. Réaction du président américain depuis la Maison-Blanche après les attaques de la nuit dernière. Attaque de l'Iran contre des bases américaines en Irak. L'Iran a donc lancé la riposte après la mort la semaine dernière du général Soleimani dans une frappe américaine. En France, la grève contre la réforme des retraites se poursuit. On entamera demain la 36e journée de grève. Et pas n'importe laquelle, les syndicats annoncent une journée de mobilisation nationale avec des manifestations dans plusieurs villes, notamment à Paris, à Marseille ou encore à Bordeaux. Mobilisation avant une nouvelle session de négociation avec le Premier ministre vendredi. À la SNCF, le trafic sera de nouveau très perturbé demain avec seulement 60% des TGV, 40% des TER et un tiers des Transiliens. On apprend par ailleurs qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, la SNCF a décidé de rembourser les abonnés TER du mois de décembre. Le remboursement sera intégral. Et puis en Ile-de-France, la RATP propose à la région de cofinancer avec la SNCF le remboursement d'un mois de passe Navigo. C'est une première pour un ancien président sous la 5e République. Nicolas Sarkozy sera jugé au mois d'octobre pour corruption. Son procès s'ouvrira le 5 octobre au Palais de justice de Paris. Nicolas Sarkozy est jugé pour corruption dans l'affaire des écoutes. Autre procès à venir, celui de Jonathan Daval. Il sera jugé pour meurtre devant les assises de la Haute-Saône. La justice vient de le renvoyer devant les assises pour meurtre sur conjoint. Lui qui a reconnu avoir tué son épouse Alexia et avoir en partie brûlé son corps en 2017, il risque la prison à vie. Et puis toujours au chapitre judiciaire, les suites de l'affaire Matzneff. On apprend qu'une association de prévention de la pédophilie a décidé d'attaquer en justice l'écrivain pour provocation à commettre des viols sur mineurs et apologie de crime. Gabriel Matzneff sera assigné à comparaître le 12 février prochain, lui qui est toujours sous le coup d'une enquête ouverte pour viol sur mineur par le parquet de Paris. Du sport avec du foot pour commencer, on connaîtra ce soir le dernier carré de la Coupe de la Ligue. Trois clubs vont tenter de rejoindre Reims en demi-finale. Lyon affronte Brest, Lille reçoit Amiens et enfin le PSG sera opposé à Saint-Étienne. Et puis en rugby, Fabien Galthié, le sélectionneur du 15 de France, se défend de faire du jeunisme. Il a toutefois dévoilé un groupe largement remanié tout à l'heure, une liste de 42 joueurs pour le prochain tournoi des 6 nations. 19 d'entre eux n'ont jamais porté le maillot de l'équipe de France.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il est 17h03 sur Europe 1. Tout de suite, vous retrouvez Mathieu Noël.
Europe 1. 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue, 2 heures hybrides, à mi-chemin du journalisme et du rire, des dossiers de l'écran et du théâtre de Guignol, le tout sur fond de rivalité et de haine recuite, vu que les journalistes de la rédaction sont désormais en compétition. Bref, c'est comme si De Funès débarquait dans un épisode de Game of Thrones.
We have to warn them, or before winter's done, you've ever known, will be dead.
In my opinion, I am sure, alors I am tout à fait sûr, que c'est un coup de fantomas.
Avec nous au studio cet après-midi pour superviser ce joyeux foutoir, une comédienne éminemment populaire qui a un lien avec Game of Thrones, puisqu'en effet, on le sait peu, Isabelle Nanty, mais votre cousin joue dans Game of Thrones.
Oui.
Il joue qui?
Il joue Tormund.
Ah ouais?
Le roux, c'est ça?
Il est quand même dans au moins 6 saisons.
Ah oui, non, mais oui, bien sûr, mais c'est un gros personnage. Ah ouais. Enfin, un personnage important de Game of Thrones. Ouais, vous êtes en contact avec lui ou c'est juste un lien? Vous avez un lien de parenté?
Ben, je suis en contact avec lui,
Vous ne faites pas Noël ensemble, quoi?
Non, je pourrais, parce que je suis très en contact avec sa maman, qui est ma cousine, qui est un de mes liens les plus forts maintenant en Norvège.
Mais alors, moi, je pense qu'il faudrait demander à la production que vous fassiez un featuring dans Game of Thrones.
Ah bah c'est fini, Game of Thrones.
Mais moi je dis qu'ils vont relancer le truc.
Vous voyez. Mais j'aimerais bien jouer avec lui et avec sa maman qui est une actrice aussi. Et son papa qui est un acteur aussi.
Alors Isabelle, vous serez bientôt de retour, non pas dans Game of Thrones, puisqu'effectivement on me l'a fait remarquer assez finement. Il n'y a que moi qui n'avais pas remarqué.
Non mais parce que vous avez envie, c'est pour ça.
J'ai envie, j'ai tellement envie, voilà. Mais vous serez dans Munch, la série de TF1 à la fin du
voilà.
mois. On continue d'en parler.
À chacun son truc.
Bah là au moins vous avez le premier rôle. On continue d'en parler. Le temps simplement de vous présenter nos deux ultimes concurrent du jour. Face à vous Isabelle, n'ayez pas peur. Votre ami Jean-Paul Rouve avait eu peur.
Avez-vous vu des aurores polaires ?
Il me fait peur. Il fait un peu peur dans sa façon de parler. Il ressemble, je trouve, un petit peu une sorte de pédophile.
Oh. Bonjour Alain Sirou.
C'est gonflé.
Bonjour Mathieu. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous.
Contrairement à ce que vos montures de lunettes pourraient laisser penser, vous ne dirigez pas le magazine Passion d'Éric, le mensuel des fans de Déric, mais le magazine Ciel et Espace. Et aujourd'hui, vous êtes excité comme une puce, Alain, puisque la NASA a détecté une nouvelle planète habitable pour la seulement 37e fois depuis votre dernier passage dans cette émission, non ?
Oui,
il détecte tout le temps des planètes.
Oui, c'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment on les détecte et quelle est la part humaine et la part du hasard dans la découverte.
Ah, et là, c'est quelqu'un de jeune qui a découvert cette planète, on peut le dire.
Absolument.
À ses côtés, Isabelle Nanty, un pur esprit. Expert littérature d'Europe 1, je craignais au départ qu'avec sa passion pour Huysmans et son Bac+12, il ne soit pas très à l'aise dans une émission où l'érudition cède souvent le pas à la gaudriole. Heureusement, j'ai pu constater qu'en termes de gaudriole, il n'était pas le dernier. Mathilda May, on a encore mal aux côtes.
Quel âge ils ont vos enfants, Mathilda ?
22 et 25. Ouais, c'est des adultes.
Ah, c'est des adultes.
Et c'est votre fils qui est musicien, c'est ça ?
Ouais. C'est Brian May.
C'est Brian May. Oh, voilà. C'est bon de rire. Bonjour Nicolas Garraud.
Pardon.
Désolé, et la formule consacrée de Michel Denisot. À votre sourire malicieux et autosatisfait, je sens qu'on va encore s'en payer une bonne tranche aujourd'hui, Nicolas.
Ah, on va bien rigoler. On a découvert les lettres écrites par T.S. Eliot envoyées à son amoureuse de l'époque, sauf que lui ne voulait pas qu'elles soient publiées. Et mais elles sont publiées quand même. Et je vais vous parler de ça, et d'Eliot, et de Salinger, et de Kafka. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on fait des écrits des écrivains une fois qu'ils sont morts ?
Ce que je remarque, c'est que quel que soit l'angle de votre chronique et quel que soit le thème, vous arrivez toujours à caser Salinger dedans.
Oui, c'est vrai.
Je ne sais pas si vous
respectez les liens.
Vous partez déjà avec un bon point. Sirou, Caro, la fine plume ou le gros télescope, qui sortira vainqueur de ce duel ? La réponse tombera peu avant 18h. En attendant, je me tourne vers notre invité. Qui est pour vous, Isabelle Nanty ? Voici, non pas Isabelle, un micro-trottoir, toujours monté pour cirer les pompes de l'invité. Voici notre micro-trottrash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on ne s'est pas fatigué à faire de montage. C'est brut de décoffrage.
Isabelle Nanty ?
J'ai l'impression que son visage est connu de tous. C'est un peu comme une maman, je trouve.
Elle joue dans la série, Obélix.
Elle a joué dans les Tuches. Ça me parle. Des frites, mon gamin, quoi.
C'est la maman Tuche. Voilà, elle est trop rigolote, la maman Tuche. Voilà.
Elle a joué dans Tati Daniel, un rôle clé. Et bon, quand elle a abandonné le chien, j'étais pas tout à fait d'accord. Mais enfin, bon.
C'est une grande actrice française.
Isabelle, faudrait faire un Tuche 4.
En tout cas, elle est jolie. Moi, je la trouve jolie. Je trouve qu'elle a un très beau visage.
Isabelle, vous avez du talent. Voilà, j'adore vous voir, continuez, ne lâchez rien en 2020.
Isabelle,
je vous aime. Isabelle Nanty, c'est la maman.
Alors, je vous le disais tout à l'heure, Isabelle, bon, parfois il y a des trucs un peu trash, mais là il n'y a rien de trash, vous êtes vraiment pas clivant, tout le monde aime Isabelle Nanty.
Il doit bien y en avoir.
Bah, on n'en a pas trouvé, en tout cas dans un périmètre de 200 mètres autour d'Europe 1,
bah, c'est un peu
ça.
Mon quartier ici. Hein.
C'est ça, en fait, c'est vos voisins, on a interrogé vos voisins. En voilà. Fait. Non, Isabelle, ce côté sympa, vous l'avez depuis toujours en fait, ou vous l'êtes forgé au fil du temps ?
Bah, qu'est-ce que je peux dire de ça ? Ce que je peux dire, c'est que j'aime bien les gens. Mais vraiment, j'aime bien les gens. C'est la seule chose à peu près qui m'intéresse.
Isabelle Nanty est notre invitée jusqu'à 18h pour le retour de Munch sur TF1 à la fin du mois.
Europe 1.
On dit souvent qu'il faut être triste pour créer, raison pour laquelle probablement Eva ne crée pas beaucoup. Et si c'était vrai ? En tout cas, on vient de découvrir une émouvante correspondance entre T.S. Eliot, la légende de la littérature américaine, et son impossible amour, histoire déchirante que va nous conter Nicolas Caron. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Dans toute compétition, il y a des règles. Même dans les combats de coqs à Bali, il y a des règles. Dans l'équipe sauvage, la règle à ne pas transgresser, c'est de ne pas s'avilir pour décrocher le vote de l'invité. Oups. Certes, il compte triple, il est décisif. De là à agiter le spectre du déclassement social. De là à utiliser ses propres enfants. L'image de ces enfants dénutris, livrés à eux-mêmes pendant que leur père fouillera dans les poubelles devant Europe 1. Il y a un pas impardonnable qui a été franchi lundi par Nicolas Caro, qui au moment du vote final, sentant notre invité Mathilda May fragile, a osé l'irréparable.
C'est d'une cruauté sans nom, quoi. C'est d'une grande violence.
C'est une petite fille à nourrir.
Oh. Heureusement pour lui, ma bienveillance est décidément sans limite, puisque le revoilà quand même. Nicolas Caro, ce soir, c'est à la loyale que vous allez tenter d'emporter les suffrages de nos auditeurs et d'Isabelle Nanty. À la loyale, mais en faisant tout de même vibrer notre corde sensible, puisque vous nous racontez la bouleversante histoire d'un amour impossible.
Et oui, qui pose la question de ce qu'on fait des écrits, des écrivains quand ils sont morts. Je vous en parle parce que la semaine dernière, à l'université de Princeton, on a découvert les lettres du poète américain T.S. Eliot. En France, on le connaît mal, mais c'est l'équivalent de Victor Hugo, en fait. Pour les Américains, c'est l'un des pères de la littérature américaine. Il est né en 1888 et mort en 1965, pour vous le situer.
Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on ne découvre ces lettres que maintenant ?
En fait, elles sont toutes adressées à Emily. Elle, il en était amoureux, mais il était marié. C'était donc un amour impossible. Elle en avait 1130 des lettres. Elle les avait données à l'université de Princeton, mais avec une condition, qu'elle ne soit ouverte que 50 ans après sa mort, pour pas embarrasser l'écrivain, justement. Mais T.S. Eliot l'a appris à ce moment-là. Il ne pouvait rien faire pour l'en empêcher. Alors, il a laissé lui aussi une lettre à l'université, à n'ouvrir qu'au moment où on ouvrirait les lettres d'Emily. Et il y explique qu'il a été effectivement amoureux d'Emily, elle, mais que... Et ça, c'est cruel. Peu à peu, j'ai réalisé que j'étais amoureux d'un souvenir, le souvenir de mon expérience, amoureux d'elle pendant ma jeunesse. Il ajoute que s'il l'avait épousée, elle, elle aurait tué le poète en lui.
Ah oui, carrément.
C'est dur.
C'est dur.
Je pense qu'il était vexé qu'elle ait donné les lettres à l'université de Princeton.
C'est ça, c'est de la rancœur. Ça pose la question aussi de la postérité des écrits des écrivains qui n'ont pas vraiment leur mot à dire, finalement.
Bah, a priori, quand on les trouve, on les publie, en fait. Tous les écrits
des
écrivains.
Mais juridiquement, on a le droit ?
Bah, juridiquement, quand c'est 50 ans plus tard, tout est dans le domaine
la
public.
La loi dit que, voilà, une fois que c'est dans le domaine public, on fait ce qu'on veut.
Sauf si les ayants droit ont encore la main et qu'ils peuvent l'en empêcher. Mais c'est très, très rare. Moi, j'ai pas de contre-exemple d'écrits qui n'auraient jamais été publiés, auxquels on n'aurait pas accès, ou alors on ne les connaît simplement pas, on ne connaît pas leur existence. Par contre, j'ai l'histoire de Kafka qui est intéressante, puisqu'il avait laissé tous ses manuscrits à son grand ami, son meilleur ami de toute sa vie, Max Brod, et il lui a écrit une lettre, on a cette lettre, dans laquelle il lui demande de brûler tous ses manuscrits à sa mort. Parce qu'il ne voulait pas que ce soit publié, il trouvait que c'était incomplet.
Ça a été, il l'a fait ?
Inabouti. Et Max Brod l'a trahi.
Ah
il l'a trahi en le justifiant, en disant « je ne peux pas brûler ça,
je ne peux pas priver
il faut que je, vous l'humanité que je les offre à l'humanité ». Et c'est grâce à Max Brod, d'une certaine manière, qu'on a le procès le château. Ouais.
Mais le château, il n'était pas d'accord pour que ça soit publié ?
Eh bien non. Eh bien non, parce qu'il considérait que ce n'était pas abouti, qu'il ne fallait pas le lire.
C'est vrai que c'est bizarre le château, mais enfin bon, c'est
le procès aussi. Mais bon, voilà, en fait, c'est une vraie question. Et évidemment, intuitivement, on soutient Max Brod, on se dit que ça aurait été trop dommage. Mais à la fois, qu'est-ce qu'on fait de l'écrivain lui-même ? Salinger, par exemple, donc. Salinger, qui, c'était cet écrivain américain qui a écrit L'Attrape-cœur et qui a été un énorme succès dans les années 50. Il a eu 60 millions d'exemplaires vendus. Et ensuite, il a vécu reclus dans une petite ville du New Hampshire. Où tous les. On en a déjà beaucoup parlé, mais tous les villageois le protégeaient contre les journalistes et les curieux, les lecteurs qui voulaient lui parler, il donnait des fausses pistes, etc. Parce que lui, il ne voulait plus apparaître en public, il ne voulait pas qu'on ait de photos de lui, il ne voulait plus publier rien du tout. Et ça a duré 60 ans comme ça, il est mort en 2010, Salinger, et la légende courait qu'il y avait une malle pleine de manuscrits, qu'il avait continué à écrire toute sa vie, etc. Quand il est mort, on n'a pas eu de nouvelles, et puis il y a 6 mois, son fils, Matt Salinger, a annoncé que oui, il y avait bien des écrits. Mais c'était des notes épars et qu'il allait faire le travail de reconstitution de tous ses écrits pour le publier. Ça va être bientôt, là, en 2020, c'est annoncé.
Isabelle Nanty, vous pensez à la postérité parfois ? Ou c'est un truc que vous en foutez globalement ?
La postérité, non. J'espère pas même. Puis la mort, c'est bien quand même.
La mort, c'est bien.
Non, mais à un moment donné...
Oui, il faut laisser la place.
Il faut laisser la place. Il ne faut pas encombrer les vivants de son souvenir et tout ça. Par exemple, moi je pense beaucoup à commencer à ranger mes affaires.
Mais non.
Pas laisser trop de photos, pas laisser trop de trucs.
La mort, c'est bien. Mais les Europe 1, Isabelle Nanty.
Non mais, ça va me porter la poisse, je vais sortir de là.
Nicolas Caro, on vous remercie à l'issue de cette belle chronique. Un mot fair play à l'attention de votre rival du jour, Alain Sirou.
C'est belle de la radio, je t'expliquerai.
Charmant jusqu'au bout, ce Caro.
Europe 1.
À suivre, depuis qu'il me fréquente, il est obligé de baisser la tête lorsqu'il passe devant son magasin Optique 2000. Il relève le col de son imper gris, accentuant encore sa ressemblance troublante avec Derrick. Mais son quotidien n'est pas bouleversé outre mesure, puisqu'après il se rend à la sortie du collège où il a l'habitude de recruter des stagiaires de 3e pour son magazine Ciel et Espace. Son accroche est immuable.
Tu aimes les étoiles, mon petit ?
Alain Sirou le savait, les enfants sont formidables. La preuve, c'est à un lycéen qu'on doit la découverte d'une nouvelle planète de la taille de la Terre et située dans une zone habitable. Alain nous raconte l'histoire de cette découverte juste après Charlie Winston, Like a Hobo, sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
La force de l'info, la douceur de la gaudriole, vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures pour taquiner vos zygomatiques sans laisser pourrir vos neurones, en compagnie d'une invitée qu'on aimerait garder toujours avec nous aujourd'hui, Isabelle Nanty.
Oh, comme c'est gentil. Avec... Bah pareil, moi je peux rester.
Vous restez, bah vous restez.
Mais alors quand vous voulez, moi je
vous venez quand vous voulez, Isabelle. Ouais, on vous retrouve dans Munch à la fin du mois sur TF1. Isabelle qui, depuis le début de l'émission, a clairement pris Eva Rock sous son aile, connaissant sa réputation sulfureuse. Elle tente de comprendre pourquoi une femme si attrayante dans la fleur de l'âge est toujours célibataire. Elle tente de l'aider à revenir dans le droit chemin.
Oui, bah, si tu passais pas toutes tes nuits, tu serais peut-être moins, Parce que faut voir,
Oui, oui, bah, vous fatiguez pas, Isabelle, j'ai tout essayé. On entendait cette chanson qui est l'hymne d'Eva, Je suis libertine, de Mylène Farmer. Or, on a appris, je sais pas si c'était sur notre antenne, mais je l'ai entendu sur notre antenne avec Isabelle Morizet, qu'au cours Florent, vous étiez, dans votre classe, il y avait une jeune comédienne qui s'appelait Mylène Farmer.
Mylène Gauthier.
Mylène Gauthier à l'époque. Et donc Mylène Farmer voulait être comédienne à la base.
Elle était très douée.
Elle était douée. Et vous avez raconté qu'elle a même joué Zézette dans Le Père Noël est une ordure.
Ouais. Parce qu'on devait faire des ateliers où on montait des pièces en entier. Et je l'ai vue dans Zézette, dans Le Père Noël est une ordure.
Et est-ce qu'elle a la réputation de quelqu'un de très mystérieux ? Est-ce qu'elle était comme ça déjà jeune dans les cours Florent ou pas du tout ? C'était quelqu'un
Elle était plutôt timide, mais elle était, je pense, sincère.
C'est juste sa timidité en fait qui fait qu'elle est mystérieuse.
Je pense, et puis peut-être un besoin de se protéger, mais c'est pas la star égocentrique, ouais. Diva, etc. C'est quelqu'un de très à l'écoute des autres, très intéressé, très très marrante.
Eh bien alors on l'invite.
Ah mais oui, non mais
certainement.
Mais ça sera amusant.
Ça sera amusant la confrontation Mylène Farmer et Eva Rock. Vous savez le public l'attend. Justement,
oui.
Eva,
oui.
Vous avez vos fiches entre vos mains, ce qui signifie que vous allez nous livrer votre chronique. 17 minutes de gagner. Pourquoi cette chronique s'appelle comme ça, Eva ?
Parce qu'on passe tous les jours 17 minutes à s'engueuler pour choisir un programme le soir à regarder sur nos écrans.
D'après une étude de l'université d'Oxford,
mais
je
non,
précise.
Très sérieux.
Ouais. Eva. Faites-nous gagner 17 minutes.
Bon, alors avant de vous conseiller un film absolument magnifique sur Arte, je voudrais qu'on s'arrête quelques secondes sur un programme de M6 qui s'appelle Patron Incognito. Alors le concept est très simple. Il faut que vous imaginiez une caméra cachée de Marcel Béliveau dans une entreprise. Donc le patron, il est grimé, perruqué et il se fait passer pour un petit nouveau auprès des salariés de sa boîte. Alors d'abord, je trouve qu'il y a un côté un peu voyeuriste qui me dérange. Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe quand les caméras partent ?
Ben oui.
Moi, je ne suis pas à l'aise avec ce genre de concept.
Donc ça
me dérange.
Ça
mais à cette fausse réalité sociale, je préfère la poésie du premier film de Vincent Delerme. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui est diffusé sur Arte ce soir à 22h30 et dans lequel la voix de cet homme résonne.
Cette femme, je l'avais vue des étés entiers. Je savais quel était son geste pour retirer son soutien-gorge. Tard le soir.
Alors, vous avez sans doute reconnu la voix magnifique de Jean Rochefort pour son dernier rôle. Le film de Vincent Delerme, c'est une suite de séquences. C'est comme un collage, en fait, de témoignages sur la vie passée ou la vie à venir. Des mots qui sont posés, évidemment, sur la musique de l'artiste. Des mots d'anonymes ou de personnalités connues. Je pense à Alain Souchon ou encore Vincent de Dienne. Ce sont des souvenirs, des tas de souvenirs, comme si on ouvrait une boîte à carton où on retrouve toutes ces vieilles cartes postales qu'on a accumulées au fur et à mesure des années. Et puis, à la 49e minute, eh bien, il y a un plan. Dans une ruelle obscure de la banlieue parisienne, un passage à peine éclairé, une palissade et puis une silhouette.
Il marcha longtemps, puis il s'adossa au mur en serrant son cartable contre lui. Une seule prise. Quelqu'un annonça, c'était le dernier plan de la journée de Jean Rochefort, et nous étions moins d'une dizaine dans la nuit, à Saint-Ouen-Rubiron, à applaudir. Applaudir le dernier plan, applaudir une vie, la vie de Jean Rochefort.
Le dernier film de Jean Rochefort, le premier de Vincent Delerme, une heure pour aborder, vous savez, tous ces infinis détails qui constituent nos bonheurs quotidiens. Moi, ça a été un bonheur, ce film de une heure, et c'est à voir sur Arte à 22h30.
Isabelle Nanty, vous avez eu la chance de côtoyer Jean Rochefort, vous avez tourné avec lui.
Oui, mais je me permets juste de dire que lors du précédent disque de Vincent Delerme, à la Cigale, les concerts sont tombés au moment de la mort de Jean Rochefort, donc au lieu de prendre une première partie, Vincent Delerme faisait une première partie hommage à Jean Rochefort et c'était sublime.
Eva, c'est dommage que vous ne soyez pas en compétition. Je pense que là, Isabelle, vous aurez peut-être donné ses points.
Mais est-ce que vous allez regarder le film, vous aussi,
évidemment
ce soir?
Moi, je vais regarder le film. Bah ouais, oui,
c'est
formidable.
Surtout
qu'on avait reçu
vraiment.
Vincent Delerme, on en avait parlé ici. Eva, merci, c'était 17 minutes de gagné.
Europe 1.
Vincent Delerme est un garçon souvent dans la lune, mais nous, dans l'équipe sauvage, on vise les étoiles. Avec celui qui prouve qu'on peut avoir un casier judiciaire fourni et rester aussi poète. Il est le Paolo Coelho de l'astrophysique.
Pour les fourmis, nous sommes des géants. Pour l'espace, nous sommes des fourmis.
Alain Sirou s'apprête à vous parler d'une nouvelle planète habitable qui vient d'être découverte par un lycéen. A tout de suite.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui a plongé la rédaction d'Europe 1 dans le chaos. Désormais en compétition chaque après-midi pour le titre de chroniqueur du jour, les journalistes d'Europe 1 ne peuvent plus se piffrer et il n'est pas rare que les réunions dégénèrent.
Vous vous foutez du monde depuis trop longtemps.
Mais non, crétin.
Sortir ce que tu viens de dire, espèce de décoloré.
Nous sommes au cœur de la mêlée avec notre invitée d'honneur Isabelle Nanty qui va maintenant répondre à la question rituelle lorsque nous abordons ce sujet. Nous allons voir si vous êtes meilleure actrice que Vincent Delerme. Vous êtes de la génération E.T. Vincent Delerme. Quand vous étiez gamin et peut-être toujours aujourd'hui, vous êtes fasciné toujours par l'espace?
Eh ben, pas du tout.
Bon, alors, roulement de tambour, Isabelle, vous aimez l'espace?
J'adore.
Ah, voilà une actrice formidable. Pour en parler, il est notre ultime concurrent du jour, vieux briscard de l'astrophysique, il dirige la revue Ciel et Espace, et vu les regards que vous échangez depuis tout à l'heure, Isabelle, je devine que vous vous connaissez.
Vous lisez, c'était formidable.
Oui.
On faisait ça en écoutant les chœurs de l'armée rouge.
Oui.
Et moi, ça me mettait dans un état...
Bien. Alors, je crois qu'il est temps de vous écouter. On a découvert une nouvelle planète, dites donc.
Alors ça, c'est vraiment la première chose qui est extrêmement importante, c'est que c'est pas la première planète qui ressemble à la Terre, qui tourne dans un endroit où... on va dire qu'il fait ni trop chaud ni trop froid, ce qu'on appelle la zone d'habitabilité.
On sait combien il fait
sur cette planète. Ce qui n'est pas le cas de la Terre.
Mais bon, je la laisse aux autres, je m'intéresse à l'univers de la Terre, pour le compte, il y a beaucoup de monde. Et en fait, pour répondre à la question de Mathieu Noël, les extraterrestres existent-ils?
C'est la question que je lui pose à chaque fois. Et donc, à chaque fois, il est incapable de me répondre. Le mec dirige Ciel et Espace, il ne peut pas me dire si oui ou non les extraterrestres
existent.
Mais
la communauté scientifique s'est mobilisée depuis des années pour répondre à cette question. Et le problème, c'est que tout ça, c'est très loin, c'est très difficile à voir. Et quand on détecte une planète autour d'une autre étoile, depuis 1995, on en connaît plus de 4000.
Ah,
en fait, on ne les voit pas. Donc, on ne les voit pas parce que c'est trop petit, trop faible. Les étoiles sont trop lumineuses. Je dis toujours, c'est comme si vous essayiez de voir une luciole tournant autour d'un phare à Marseille depuis Paris. Vous voyez la difficulté. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des astuces. Mais bon.
Mettre des lunettes déjà.
Alors mettre des lunettes déjà. Et en fait, la solution se trouve dans la lumière. Et un des systèmes, et c'est ça l'annonce d'hier, c'est qu'on voit de temps en temps passer une planète devant son étoile, ce qu'on appelle un transit. La lumière baisse, pas beaucoup, un centième, mais on sait qu'elle est là.
Alors celle d'hier qu'on a découvert, qu'est-ce que c'est que cette planète?
Alors, c'est une planète découverte par un satellite américain qui a été lancé exprès. Donc
je croyais que c'était par un jeune.
Pardon?
Je croyais que c'était par un jeune garçon.
Mais la cible, c'est-à-dire l'étoile visée, fait l'objet d'une enquête spéciale. C'est-à-dire que toutes les étoiles ne se ressemblent pas. Les étoiles sont comme les hommes et les femmes, c'est-à-dire qu'elles sont toutes parentes, mais toutes différentes. Vous avez des gros, des petits, des moyens. Le soleil, c'est un bon pépère. Hein. Il est plutôt assez gros et tout, mais 80% des étoiles sont plus petites. Et l'intérêt des petites étoiles, c'est qu'elles brillent peu, beaucoup moins. Elles sont moins énergétiques. Donc, on a plus de chances de voir, entre guillemets, dans le futur, des planètes tourner autour, parce qu'elles sont moins éclairées par la lumière de l'étoile. Donc, on cherche des étoiles faibles. Et on fait ça de façon systématique. On observe des centaines de millions d'étoiles avec des instruments. Et puis ensuite, on les passe sur les ordinateurs. On regarde si elles sont petites, si elles sont grosses. Sauf que les ordinateurs ne sont pas capables de tout faire. Et on utilise aussi ce qu'on appelle des amateurs, ce qu'on appelle la science participative, c'est-à-dire des citoyens, pour simplement, sur leur ordinateur, regarder les étoiles, regarder ce que les spectres des instruments ont donné, et puis on clique en disant ça c'est petit, ça c'est gros, ça c'est petit, ça c'est gros, parce que finalement, l'ordinateur ne voit pas tout. L'être humain a cette capacité encore à être supérieur à la détection des robots.
Et alors donc là, c'est ce qui s'est passé.
Cette étoile-là avait été mise par les ordinateurs dans les grosses étoiles, donc impossible à observer. Et ce garçon qui est passé par là, dans la science participative, qui faisait partie de l'expérience, a cliqué « Non, non, pas du tout, ça c'est une petite étoile ». Et donc, on a rectifié, en fait, un garçon, un lycéen, mais il y en a plein d'autres, c'est du public, quoi. Clique dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous parle de deux choses. Un, c'est qu'on a toujours besoin des hommes, même pour des grandes données astronomiques. C'est-à-dire, il y a des milliards et des milliards de planètes et de soleils autour de nous, mais l'œil humain reste encore extrêmement important pour la détection. Puis, deuxième chose, c'est le hasard. La découverte, ce qu'on appelle la sérendipité, vous savez, c'est-à-dire tout d'un coup, celui qui passe par là, il y avait un prof qui disait la sérendipité, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, il découvrait la fille du fermier et l'épouser. Et je trouve que c'est très beau parce que ça veut dire que même si aujourd'hui, des ordinateurs, des satellites et plus tard, des instruments spécialisés regarderont ces planètes, à la base, eh bien, ça peut être un garçon, une fille qui regarde des oiseaux, des papillons, clique sur l'étoile de mer parce qu'elle la trouve jolie, etc., qui contribue à la science et qui va faire que tout d'un coup, eh bien, on va voir une planète là où on pensait qu'il n'y avait rien.
Et est-ce qu'on pense, ces planètes qu'on trouve de temps en temps, qu'on dit habitables, c'est juste pour la beauté du geste qu'on les découvre, ou est-ce qu'on peut imaginer un jour d'y aller ?
Alors, y aller,
sont
non.
Trop loin.
Y aller,
très,
non,
très
parce que c'est là. Beaucoup trop loin. L'étoile la plus proche, avec une fusée actuelle, il faudrait 40 000
d'accord, donc c'est
années
foutu.
Pour y aller. Mais ce qu'on espère voir, c'est des signes d'activité biologique dans l'atmosphère de ces planètes. Et je pense que dans les années qui viennent, on pourra répondre au début de la question que vous posez, c'est-à-dire,
y a-t-il des vies,
est-ce que quelque chose respire ?
Et ça, c'est la définition de la vie. Il faut que ça soit un organisme qui respire.
Ben, pour l'instant, on ne connaît que la Terre et c'est très difficile de dire à quoi ressemble la vie, surtout que quand on se demande si, comment elle est apparue sur Terre, en fait, on n'en sait rien. Donc oui, c'est compliqué.
Eh bien, merci Alain Sirou. Votre chronique intergalactique vous permettra-t-elle de décrocher la précieuse couronne ? La réponse ne va plus tarder maintenant.
Europe 1.
À suivre, la compétition proprement dit est terminée, mais il vous reste à découvrir, Isabelle Nanty, un dernier chroniqueur, notre chroniqueur gastronomique, Olivier Pouls.
Ah mon Dieu, je sais pas comment sera le nouveau, mais en tout cas, ça sera jamais aussi pire que l'autre timbré, là.
Timbré, non, je dirais qu'Alain est fantasque, lunaire. Vous allez voir, Olivier Pouls, lui, est plus terre à terre. Il vous livre ce soir une recette qui devrait vous plaire, sachant ce que vous allez faire après l'émission, le poisson en papillote. A tout de suite.
Ah, génial.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, l'équipe est sauvage se poursuit. 2 heures pour apprendre en s'amusant et découvrir un invité vedette. Hier, c'est le comédien Jonathan Lambert qui nous accompagnait entre 16h et 18h. Il nous avait dit « Je viens, mais c'est un peu tôt pour moi ». Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Et puis en le recevant, j'ai compris. Non, avec Arthur, c'est une histoire de caméscope gagné sur Europe 1 qui aurait tout déclenché, c'est vrai ?
Ouais, je crois qu'il était sur Europe 1 d'ailleurs, ouais, c'est ça ? Ah, vous venez de le dire ? Putain, merde, ok.
Oui, pas très très bien réveillé, Jonathan. Aujourd'hui, on est ravis de passer un moment avec Isabelle Nanty, bientôt de retour sur TF1 pour une 3e saison de Munch. Mais vous savez la question que tous nos auditeurs se posent ? Les tuches !
Les frites.
Alors, ça revient ?
Oui, je commence à tourner le 10 février.
Ah, donc là, le scénario est bouclé, le tournage
ouais,
va démarrer.
On est en train de préparer.
Et alors, vous avez lu le scénario, Isabelle, ou vous êtes allée,
bien sûr.
Ou vous êtes allée les yeux fermés ?
Non, non. J'y suis allée par obligation, mais si ça ne m'avait pas plu à la lecture, j'aurais dit non.
Alors, dans le 3, ils étaient à l'Élysée. Là, est-ce qu'on peut déjà dévoiler un peu ce qui va se passer ?
C'est un film de Noël.
Ah, ben voilà. Déjà, on peut imaginer un petit peu, c'est un film
donc
de Noël.
Donc, vous imaginez la date de sortie ?
J'imagine aussi la date de sortie, ce sera dans un peu moins d'un an, si je ne m'abuse.
Voilà.
Il y avait eu, on en avait parlé avec Jean-Paul Roux, pas une polémique, mais il y avait des gens qui disaient que les tuches, ça se moquait des gens de province et tout ça, parce que Jean-Paul Roux n'aimait pas cette critique-là. Est-ce que vous l'entendez ? Vous pouvez comprendre que ça soit pas bien compris, parfois ou...
Nous, en tout cas, on est de très bonne foi quand on le fait. C'est-à-dire que quand on joue cette famille, d'ailleurs, c'est un moment... C'est assez joyeux de se mettre dans cet état-là. On est comme des enfants. Et comme les enfants, on est enthousiastes. Les tuches sont enthousiastes, gourmands. Comment dire ils aiment, s'ils aiment une couleur, ils l'aiment flashy. S'ils mettent des légumes, ils en mettent plein. Et s'ils mangent des patates, et ben c'est des frites, du gratin, toutes les déclinaisons de la pomme de terre, comme les enfants, quoi. Et donc, nous, on se met dans cet état-là, donc il n'y a pas de méchanceté chez eux, il n'y a pas de... Donc on ne peut pas jouer ça avec mépris.
Impossible.
Donc, non.
En attendant, les Tuches 4, vous la retrouvez bientôt sur TF1 pour une 3e saison de Munch. Isabelle Nanty a choisi Europe 1 pour son goûter.
Europe 1.
Et justement, Isabelle, puisqu'on commence à avoir un petit peu faim, Olivier Pouls, notre expert gastronomique, va venir vous livrer sa recette express pour ce soir. Comment vous présentez Olivier Pouls? Vous voyez Depardieu?
Je te sers un coup de pommard, ça rime avec braquemard.
Ben, même chose, en plus gourmand. Bénédicte Extremis, la recette qui chaque soir vous sauve la mise, arrive juste après Nash, la couleur de l'amour sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipée sauvage, 2 heures au service de votre culture, de votre bonne humeur et aussi de votre délicat petit palais. Et je vous connais, déjà qu'en temps normal, quand il y a des TER et des métros, vous oubliez une fois sur deux de faire les courses. Alors là, avec les grèves, je ne donne pas cher de votre dîner. Au fait, la grève n'est toujours pas terminée. Jetons un œil dehors, voir ce que dit la CGT.
Nous refusons de reprendre de travail. Hors de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable.
Pas content.
Ah oui, donc c'est pas encore aujourd'hui que vous aurez le temps de réfléchir à une recette. Heureusement, on gère ça pour vous. Isabelle Nanty, voici Délices in Extremis. Je sais que vous aimez la gastronomie.
Tu as aimé mes rognons blancs Riesling?
Oui, j'ai adoré Isabelle, mais là, juste après les fêtes, j'essaye d'éviter les rognons. Je vous présente mon coach minceur, Olivier Pouls. Oui, avec un coach minceur pareil, c'est pas gagné. Quoique aujourd'hui, c'est assez light, hein, Olivier, la recette.
Ben, je vois que vous avez commencé à manger, Isabelle, du pamplemousse. C'est pas une recette, ça.
Je sens que ça vous choque, Olivier.
Écoutez, aujourd'hui, je dois manger un pamplemousse et du poisson en papillote.
Eh bien, écoutez, ça tombe extrêmement bien. Parce que
c'est incroyable.
Je vous ai préparé une recette de poisson en papillote. C'est dingue, quand même. Parce que je savais que vous aimiez ça.
Oui, j'adore ça.
Et alors, vous les faites comment, vos papillotes?
Alors, moi, je trouve que c'est d'abord très pratique parce que c'est 20 minutes, en fait.
Ah oui. Hein. C'est inratable.
C'est inratable. Faut de l'ustensile à papillote.
Oui, alors justement, ustensile à papillote, pas de papier d'aluminium. Hein.
Ah bon? Ah non, jamais, c'est non. Du papier. Ah voilà. Blanc,
je serais parti sur du papier d'aluminium.
Non, mais non. Pourquoi pas de papier aluminium? Parce que le papier aluminium, au contact notamment de l'acidité, dégage des matières qui seraient potentiellement cancérigènes. Donc on n'utilise plus de papier aluminium pour faire des papillotes. Et si on veut utiliser le papier aluminium, on met dedans une feuille de papier sulfurisé pour protéger les aliments. Donc jamais les aliments au contact du papier aluminium quand on réchauffe, ça c'est très important.
D'accord. Mais sulfurisé, ça veut dire qu'il y a du sulfure?
Non. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le papier à pâtisserie, tout simplement. C'est un papier qui résiste à la chaleur, qui est idéal d'ailleurs pour faire des papillotes. Et puis si on pouvait faire des papillotes tout simplement avec une cocotte que vous allez lutter. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cocotte lutée? C'est une cocotte qu'on a fermée, qu'on a rendue hermétique en utilisant ce qu'on appelle une pâte morte, c'est-à-dire de la farine et de l'eau. Et avec ce mélange qui va avoir la texture d'une pâte à pain, on va venir fermer, rendre la cocotte totalement hermétique de manière à ce que justement cette cuisson en papillote, qui est très intéressante parce qu'une cuisson en fait à l'étouffer à la vapeur, mais que cette vapeur reste bien à l'intérieur de la cocotte, c'est parfait.
Bon alors on prend du poisson.
Voilà.
J'essaie de recentrer.
Voilà. Alors on prend du poisson, on prend des légumes. L'idéal, parce qu'on est vraiment en saison d'hiver, donc c'est plutôt les panais, c'est plutôt le céleri, carottes, betteraves, navets, tous ces excellents légumes très bons pour votre santé. Eux, il faut d'abord les précuire un petit peu parce que le temps de cuisson de ces légumes est un peu long. Ouais. Et alors c'est pas tout à fait compatible avec le poisson. Alors que les légumes d'été c'est plus facile. Donc on va émincer ces légumes, on va les faire revenir dans très peu de matière grasse parce que l'idée c'est quand même de garder quelque chose de totalement diététique. On va rajouter un tout petit peu d'eau, un tout petit peu de bouillon et on va précuire nos légumes pendant 10 minutes. Après quoi, on va pouvoir les mettre dans la papillote, choisir un morceau de poisson. Vous avez déjà fait votre choix pour ce soir? Poisson blanc, saumon?
De la sole.
De la sole, par exemple. Ben, ça marche très bien. Mais ce que je vous conseille aussi d'essayer, c'est le dos de cabillaud. C'est un poisson qui marche très très bien. C'est la cuisson idéale, finalement, pour le dos de cabillaud. C'est la papillote. Voilà. Donc vous posez votre dos de cabillaud. Quelques rondelles de citron pour apporter une petite acidité, un peu d'herbe, un peu de laurier, un peu de thym par exemple. On referme soit la papillote, soit la cocotte, 20 minutes au four, vous avez raison. Et c'est un rata parce que la cuisson est vraiment, vraiment réussie, c'est très moelleux.
Les auditeurs attendent ma question. Chaleur tournante?
Bien sûr, chaleur tournante, mon cher Mathieu. C'est l'idéal, je vois que vous avez un four particulièrement compétitif.
Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
La fatigue se lit sur les visages, les muscles sont endoloris, les chevaux sentent l'écurie. Oui, l'équipée sauvage touche à sa fin. Qui sera élu chroniqueur du jour? Oui, peut-être Nicolas Caro qui fait déjà le V de la victoire avec ses doigts.
Ah bah oui, je suis critique littéraire moi.
Oui, bah nous allons voir, il y a parfois des surprises. A tout de suite pour la grande finale.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
C'est des étoiles plein les yeux et le cœur certainement empli de gratitude après toutes ces choses qu'elle a apprises en notre compagnie qu'Isabelle Nanty, notre invitée, va bientôt prendre congé de nous. Il est clair qu'elle a adoré participer à l'émission.
C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi. Si j'ai accepté, c'est par politesse.
Oui, alors, mais les meilleures choses ont une fin, Isabelle. L'heure du dénouement a sonné. C'est la séquence dite du qui tout double. Nos quatre journalistes en compétition ont 10 secondes pour défendre leur bout de gras. Axel de Tarlé, vous avez tenté de nous faire croire que Bill Gates regrettait d'être riche. Pourquoi Isabelle Nanty devrait-elle voter pour vous ?
Parce que vous m'avez déjà accordé vos 2 points.
J'ai qu'un point, donc déjà tu connais bien le règlement.
1 point, les téléspectateurs vont voter pour moi. J'aimerais bien faire le grand chelem, Isabelle. Et donc il faudrait que vous votiez pour moi.
Il est terrible. Alain Sirou, pourquoi voter pour vous et cette nouvelle planète ?
Moi, j'essayais de vous montrer que la science, c'est quelque chose qu'on pouvait tous utiliser et puis qu'on pouvait s'amuser simplement par la curiosité à le faire.
Plein de manières de s'amuser. Nicolas Carreau, pourquoi voter pour vous ?
Parce que j'ai fait de mon mieux, j'ai parlé de
c'est pas suffisant.
Poésie, d'amour, de Salinger, franchement, un show max.
Anissé Mbida, pourquoi votre
parce que je sais que Isabelle s'intéresse à l'avenir de la planète et à l'avenir et au bien-être animal, et donc même si ce soit un mange de la sole, je vais quand même parler de en disant que je parle de la fameuse sole à base de pamplemousse, je vais parler de viande à base de plantes qui est bonne pour la planète et bonne pour le... Fin...
Oui, j'ai pas tout suivi, voilà. On n'a pas tout compris et il n'y avait pas de chute, mais c'était bien tenté de votre part. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Alors, mais c'est victoire écrasante pour Nicolas Carreau.
Yeah. Nicolas Carreau.
Ouais, exactement.
Ses yeux brillent. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. Je lui avais annoncé, je tiens ma parole. Ah, Anis, non, je rigole. Ah, Axel,
j'ai eu peur.
J'ai bien aimé qu'on parle de Piketty. J'ai bien aimé tout ça, Axel. Et je vous le dis, je vous fais un bisou. Mais vous savez, ici, c'est l'invité qui a le dernier mot. Isabelle Nanty, mettez votre gentillesse en sourdine une minute pour nous dire qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour.
C'est Cathy Tuche qui va répondre.
C'est Cathy Tuche avec l'accent.
Tout le monde a gagné. Chacun a amené savoir, son charme, son enthousiasme.
Je vais vous dire ce qu'on va faire. Je vais vous dire ce qu'on va faire. D'habitude, je ne tolère pas cela. J'oblige l'invité, je le force. Tout simplement.
Oui, c'est vrai, on en a forcé.
Mais comme c'est vous, Isabelle Nanty, vous m'êtes éminemment sympathique.
Mais comme c'est gentil.
Vous avez le droit. Isabelle Nanty est la seule invitée qui a le droit. Elle distribue ses points équitablement, ce qui va nous obliger à des opérations éminemment complexes, puisque 3 points divisés par 4. Oui. Je vous laisse faire le calcul. On n'est pas dans la merde.
C'est pas moi qui
remporte cette édition de l'équipée sauvage. C'était en tout cas la 89e journée. On va dire que c'est qui remporte ? On va dire que c'est...
Mais il faut absolument mettre la couronne, c'est ça ?
Il faut toujours remettre une couronne. Et puis il y a un championnat à la fin de la saison. Il y en aura un qui sera viré.
Ah bon ?
Nicolas Carreau.
Mais c'est horrible.
C'est horrible.
On se prend aller chez McDo. C'est qui l'employé du mois, là ?
Justement. C'est l'employé du jour, Nicolas Carreau, qui remporte la 89e journée de l'équipée sauvage. On remercie notre invitée Isabelle Nanty, que vous retrouvez à la fin du mois sur TF1 pour une nouvelle saison. Merci également à tous mes journalistes, Eva Roch, Anissé Mbida, Axel de Tarlé, Alain Sirou, Nicolas Carreau et Olivier Pouls.
Amenez-lui son casque de moto.
À qui ? Pourquoi ? Ah oui, parce que je suis pressé, vous avez raison, je file, je vous laisse. L'équipée sauvage revient demain 16h tout de suite. Restez sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Merci pour ce très bon moment en compagnie de votre équipée sauvage. 89e édition, hein, si j'ai bien compris. Demain, vous recevrez le photographe Laurent Balesta. Belle soirée à vous.